Donc, merci Delphine pour ton invitation et pour cette occasion de présenter effectivement des travaux qui ont été menés dans le cadre de deux programmes de recherche financés par l'ANR. Le premier est un programme qui a été dirigé par Leïla Vignal, qui est géographe à Rennes, enfin aujourd'hui à Oxford, mais statutairement à Rennes, qui s'appelait CISREMO, un programme sur les intégrations régionales dans le monde arabe, et un autre programme ANR qui s'appelait Mob Globe et que je co-dirigeais avec Catherine de Vinden, qui portait sur la gouvernance globale des migrations, avec un des axes de recherche qui était centré sur le Moyen-Orient au sens large, et ces deux programmes m'ont permis de faire une enquête de terrain entre 2012 et 2015, entre avril 2012 et janvier 2015, non pas que je sois restée 3 ans en Arabie Saoudite, mais j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises pour mener une enquête auprès des acteurs de la politique publique de l'emploi et de l'immigration dans le cadre des réformes initiées dans le royaume en 2011, au début de la vague dite de printemps arabe. Donc ça, c'est pour le contexte et les sources empiriques. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une sorte de diptyque qui reprend en partie des résultats publiés dans cet article de la Rémy l'année dernière sur les politiques migratoires saoudiennes et les politiques du marché du travail dans le contexte des printemps arabes. Donc une analyse que j'ai faite du point de vue de l'action publique et de ses rationalités. Un article que je suis en train de préparer qui s'appelle « Resilient Residents » pour une revue anglo-saxonne sur d'un peu plus longue durée sur les structures de la migration et la gestion politique de la migration dans les pays du Golfe dans une perspective comparée. Donc, petite introduction. Et effectivement, ça me semblait complètement très très excitant de venir discuter de ces recherches, l'une pas complètement aboutie, mais avec déjà des résultats publiés, et l'autre en cours, et de les mettre en regard de ce que Ali observe dans un, comme tu le disais très bien Delphine, dans un autre état rentier, avec c'est quelque chose qui ferait rêver n'importe quel économiste, qui est comme une expérience naturelle. On a deux états rentiers avec des structures économiques comparables, sinon similaires, mais dans l'un, il y a eu une révolution, et dans l'autre, il n'y a pas eu de révolution, donc on a notre expérience naturelle, c'est merveilleux. Donc là, on pourra un peu s'envoler sur cet aspect-là du comparatisme qui est quand même assez excitant intellectuellement. Donc, je vous rappelle juste le titre de cette publication qui s'appelait « Migration et contre-révolution dans le Golfe » qui est datée de 2015, mais en fait, elle a été publiée en 2016. Ça, c'est le miracle de la Rémy. Et qui fait écho aussi, notamment la deuxième partie de mon papier, fait écho à des travaux que j'avais commencé à mener pendant mon post-doctorat à l'université d'Oxford, qui m'avait amené à publier un papier dans le journal de théorie politique Raison politique sur le nationalisme d'État et le nationalisme ordinaire en Arabie Saoudite et des réflexions un peu préliminaires sur le rapport entre l'État saoudien et ses immigrés. Et l'usage du terme immigré était déjà tout à fait controversé à l'époque pour parler des étrangers résidents dans les pays du Golfe. Voilà. Donc, la première partie de cette présentation, pour laquelle j'ai... Combien de temps tu me donnes, Delphine ?
3 quarts d'heure maximum.
D'accord. La première partie de cette présentation concerne les réformes du marché du travail et l'immigration qui ont été menées à partir de 2011 en Arabie Saoudite et que j'ai interprétées et analysées comme des stratégies contre-révolutionnaires. Pour rappel un peu rapide, dans la littérature, il y a eu quelques publications qui ont tenté de traiter de la question des printemps arabes et de la diffusion, pour utiliser le terme de Kurt Weiland, des vagues révolutionnaires dans les monarchies du Golfe. Donc il y a eu quelques texte sur Bahreïn, où il y a eu effectivement des manifestations extrêmement importantes en 2011, des textes un peu plus généraux, on va dire plus géopolitiques, un peu de surplomb comme ça sur la région, mais en fait il y a eu assez peu de production scientifique pour une raison très simple, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas eu de printemps dans les monarchies du Golfe, il n'y a pas eu de révolution. Pour ça, dans la littérature, on a plusieurs types d'approches qui sont intéressées à cette non-question, d'une certaine façon. L'approche de relations internationales un peu classique, où on a analysé la façon dont les monarchies du Golfe ont réagi au printemps arabe dans d'autres pays, donc avec une perspective un peu géopolitique, par exemple en regardant ce que l'Arabie saoudite a fait au Bahreïn, l'intervention saoudienne au Bahreïn, en regardant la contribution des monarchies du Golfe à la structuration du conflit syrien dès 2012, à travers des financements notamment, mais aussi l'analyse classique des quelques mouvements, des quelques formes de mobilisation qu'on a observées, notamment ces fameuses manifestations à Manama en 2011, sous l'angle de l'intrusion iranienne dans les politiques intérieures du Bahreïn et de l'influence de l'Iran sur la majorité, puisque ce n'est pas une majorité, mais la majorité chiite de Bahreïn. On voit que c'est un type d'analyse qui va être aussi utilisé dans le cas saoudien, puisque les quelques manifestations qu'on observe aussi en Arabie saoudite ont lieu dans l'est du pays et concernent aussi là la minorité arabe chiite qui est essentiellement localisée dans les provinces de l'est qui sont aussi les provinces de l'industrie pétrolière, hein, d'extraction et de raffinage. Donc avec le même type d'interprétation, il s'agit d'une forme de mobilisation de ce mécontentement chiite, donc une prise de lecture comme ça un peu à la fois sectaire et liée à l'influence de l'Iran et le téléguidage de ces mobilisations par l'Iran. Donc ça a été des choses qu'on a lues, enfin, qui se lisent un peu dans la littérature. Encore une fois, on parle de quelques références, hein. Il n'y a pas une littérature énorme là-dessus. La seconde approche qui est assez présente dans la littérature, c'est l'approche par la politique nationale. Et là, il y a une étude de mon collègue Stéphane Lacroix, mais aussi quelques autres études qui ont été menées sur à la fois la rébellion dite chiite, mais aussi l'opposition islamiste et la répression de l'opposition islamiste à l'occasion de ces printemps arabes. Donc ça, c'est plutôt la grille de lecture classique de politique nationale et d'autoritarisme efficace en contexte de printemps arabe. En ce qui concerne l'approche plus structurelle, c'est-à-dire l'analyse qui a été pourtant classiquement menée sur d'autres contextes, sur la Tunisie, la Libye, beaucoup sur le Maghreb et l'Égypte, un peu aussi sur la Syrie, l'analyse des causes structurelles des soulèvements, là, elle manque sérieusement dans la toute faible littérature qu'on a sur le Golfe, comme je le dis dans mon papier, aussi parce que les monarchies du Golfe étaient considérées comme ne cadrant pas avec l'analyse des causes structurelles des mobilisations, c'est-à-dire appauvrissement, poids de la crise économique, frustration politique et démographie, c'est-à-dire la présence d'une forte population jeune et de plus en plus qualifiée en situation de frustration sur le marché du travail. Donc ces causes structurelles sont en général considérées comme n'étant pas pertinentes pour le Golfe parce qu'on a affaire à des pays riches qui sont en fait très peu touchés par la crise économique, ce qui est vrai. Et là, c'est un préjugé qui en fait est faux scientifiquement. Ces autres vecteurs structurels qui sont des contextes, hein, dirait Sinetaro, de mobilisation et non pas des causes de mobilisation, n'existant pas, alors que de fait, ils sont assez pertinents. La jeunesse de la population, la frustration, l'éducation, etc. Tout ça fonctionnerait pour les monarchies du Golfe. Mais il y a une sorte d'oblitération des cas golfiens à cause de la richesse en termes de PIB et de la capacité redistributive de ces États. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette approche structurelle, elle est en fait largement ignorée par la recherche ou les commentateurs, même médiatiques, mais elle n'est pas du tout ignorée par les dirigeants saoudiens. L'idée de ces papiers, et mon idée, c'était de changer un peu de type d'approche sur le printemps saoudien, donc de ne pas m'intéresser à l'approche aérie classique, de ne pas vraiment m'intéresser non plus à la question de la répression de l'opposition à l'échelle domestique, mais plutôt de m'intéresser à ces facteurs structurels. Le printemps saoudien... on peut le lire, enfin en tout cas c'était mon parti pris, alors c'est un parti pris qui est totalement contestable, mais c'est un parti pris qui est fort dans ce papier. Je choisis de le lire à travers les politiques publiques, c'est-à-dire que j'ai limité mon approche à l'analyse des politiques publiques et aux objectifs explicites ou implicites que j'ai pu discerner dans ces politiques publiques, à la fois dans leur aspect documentaire, donc la littérature grise, les policy papers, les textes réglementaires, etc., que j'ai épluché, mais aussi dans les entretiens que j'ai menés. Donc il y avait de l'explicite, de l'implicite, du dit, du non-dit. Enfin, voilà, Foucault était content. Clairement, on a des objectifs politiques qui sont la préservation de la monarchie et du régime, hein, éviter des troubles et une remise en cause de la légitimité du régime saoudien. Il y a évidemment clairement cette dimension régionale de la contamination la préoccupation pour ce qui s'est passé à Bahreïn, donc ces manifestations de centaines de milliers de personnes à Manama. Et qui justifie l'envoi de troupes saoudiennes pour rétablir l'ordre chez le voisin. Donc c'est absolument pas trivial comme choix politique. On a un cas assez clair. Mais en Arabie Saoudite, on a trois objectifs et trois types de stratégies. Dans les provinces de l'Est, donc où est localisée cette rébellion chiite, ce qui est présenté comme une rébellion chiite, une stratégie de répression extrêmement dure avec emprisonnement, interdiction des manifestations, envoi de l'armée, etc. Mais aussi des stratégies de cooptation pour des élites un peu agitées, donc avec un maniement comme ça de carottes et bâtons assez classique en Arabie Saoudite. En ce qui concerne l'opposition dite islamiste, c'est plutôt une stratégie de répression dure qui a été adoptée. Elle a été documentée encore une fois par Stéphane Lacroix, donc je ne vais pas revenir dessus, qui est très similaire à ce qui s'était passé dans les années 91-92, au moment de la Seconde Guerre du Golfe, enfin de l'opération Trompette du Désert, et qui avait amené à l'emprisonnement des grands leaders de l'opposition islamiste à la monarchie saoudienne, type Salman al-Rouda, etc. Donc ce sont à peu près les mêmes, plus leurs épigones 15 ans après, comme dans les romans, qui sont à nouveau en prison. En sachant que ces 10 opposants avaient été d'abord réprimés, puis ensuite un peu cooptés, puis à nouveau réprimés. Enfin bon, c'est toujours la même alternance en fait, qui est mise en place du point de vue de la politique répressive. Et ce qui m'intéresse plus, puisque c'est pour ça que je le mets en gras sur cette présentation, ce que j'appelle la technique rentière, c'est-à-dire la pratique de l'État saoudien pour acheter le consentement de population, le consentement large de la masse, on va dire, des quasiment 30 millions de Saoudiens moins 9 millions d'étrangers, enfin des 20 millions de nationaux, un peu plus, de que j'appelle dans l'autre papier « buying out consent », en utilisant des stratégies de distribution de prébende universelle, c'est-à-dire en donnant de l'argent à tout le monde, en l'occurrence des sommes type 1000 riyals, etc., qui sont versées sur les comptes en banque de tous les citoyens saoudiens, et en mettant en place des politiques structurelles de promotion de l'emploi, etc., sur lesquelles je vais revenir. Donc, mon hypothèse de départ, elle est volée au socio-historien Charles Tilly, dans un papier que j'aime beaucoup, qu'il a publié en 1973, qui sur les révolutions et les mobilisations sociales. Et elle revient à l'idée que l'intérêt pour les... Quand on s'intéresse aux révolutions, aux changements sociaux brutaux dans des moments révolutionnaires, on a en fait deux types de... d'éthos. Lui, il parle de questions qui relèvent de la météorologie ou de l'ingénierie. C'est-à-dire que les scientifiques, et notamment en sciences sociales, on se pose beaucoup des questions sur l'explication des révolutions, leur causalité, pour essayer de les prévoir. C'est un objectif de prévision. Ça, c'est très très fort dans les sciences sociales depuis les années 60, alors avec différentes tendances. Mais c'est vrai que cette question de la prédiction des révolutions et des changements sociaux en sciences sociales, elle est très forte. Alors, bien sûr, Charles Seeley, lui, il se prononce plutôt contre cette ambition de prédiction, on le sait.
Je suis pas sûr que c'est même le cas de météorologie, c'est un ancien climatologue qui le dit, oui. Qu'il y a plus de chances de se tromper en faisant des prévisions qu'en disant qu'il fera le même temps demain qu'aujourd'hui.
Oui. Dans le papier, il en parle. En fait, il y a une prime au conservatisme dans les prédictions. C'est ce qui explique en fait qu'on n'arrive jamais. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent qu'on n'arrive jamais à prédire les révolutions. Mais ça, c'est une des régularités en fait statistiques qu'on peut relever. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien dans son papier, c'est qu'il reprend un peu d'autres travaux, enfin il revient de manière un peu critique sur d'autres travaux, notamment je pense à ceux de Randall Collins qui expliquait que voilà, on peut toujours justement, il faisait cet argument qu'on peut regarder des tendances, donc regarder des macro-trends, des évolutions structurelles sur le temps long, et puis prolonger la courbe, quoi. Enfin, ce qui est ce qu'on fait tous, je veux dire, quand on fait un peu de quanti, on dit on prolonge la courbe avec la même pente et on voit ce qui se passe. Bon, ça c'est assez facile à faire, mais ce qui est difficile à prédire, nous disait Randall Collins, qui pourtant était un gros fervent soutien de la prédiction en sciences sociales, c'est les macro-events. C'est-à-dire qu'en revanche, l'événement, il est très l'événement qui introduit une rupture ou l'événement tout court, il est très difficile à prédire. Et on revient vraiment à des débats classiques, genre structural agency, c'est-à-dire à quel moment l'agency individuelle ou collective va introduire une rupture dans le trend ou pas, ou à quel moment il y a des effets de seuil. Tout ça, c'est des grosses discussions que Feda Scotch-Paul, Jack Goldstone ont mené. Voilà. Bon, là où ça m'amusait, c'était que Tilly nous dit, il y a cette question de la météorologie en sciences sociales, tout le monde essaye de prédire des trucs et tout, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'avers de cette ambition météo, c'est l'ingénierie. C'est-à-dire que ces questions de causalité, une fois qu'on les a résolues, qu'on en soit à l'État ou un révolutionnaire, ça donne des outils et des armes, plus précisément, pour soit provoquer des révolutions, soit les empêcher. Et donc là, on s'intéresse à la causalité dans sa version de potentielle instrumentalisation politique. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, je reviendrai sur mon slide après. C'est un peu ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à regarder les réformes du marché du travail et de l'immigration qui ont été lancées en 2011 en Arabie Saoudite, j'ai très vite été confrontée dans les entretiens et même dans mon approche du sujet à l'ambition d'ingénierie politique et d'ingénierie sociale à vocation contre-révolutionnaire. Et c'est un agenda dont je dis qu'il n'est pas si secret, non pas parce que j'ai parlé à l'époque avec le roi Abdallah, mais parce que les objectifs d'empêcher une révolution, d'assurer la sécurité du régime, d'assurer un modèle de développement économique et social durable, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en péril l'équilibre à l'instant T, mais qu'ils le reproduisent avec des modifications mineures et contrôlées sur le temps long, est vraiment quelque chose qui m'a été explicitement présenté par les acteurs. Alors il ne faut pas forcément prendre le discours des acteurs pour argent comptant, mais quand on étudie les rationalités de l'action publique, c'est quand même intéressant de l'avoir explicité comme ça. Et avec des projections intéressantes dans les discours sur le temps court et le temps long de l'action publique, qui a été complètement renforcée avec la monarchie, la nouvelle monarchie, enfin l'arrivée de Salman au pouvoir, avec la publication de la Vision 2030 et d'autres grands textes programmatiques comme ça sur la trajectoire un peu développementaliste de l'État saoudien. Alors cette idée m'était pas venue non plus complètement toute seule et j'avais été un peu mise sur la voie en début 2012 quand j'avais été contactée par le ministère des Affaires étrangères, en gros par le ministre des Affaires étrangères lui-même à Paris et invitée à contribuer à organiser une consultance sur les causes des printemps arabes et comment empêcher un printemps arabe en Arabie Saoudite. Donc la commande elle était assez claire, enfin plus claire c'était pas vraiment possible. Et donc là, c'était assez évident que la question de l'ingénierie politique et de l'action publique, des stratégies de l'action publique, elle se posait en termes très explicites pour empêcher la contamination révolutionnaire. Et bien sûr, ça a été confirmé, comme je le disais il y a quelques secondes, par la série d'entretiens que j'ai menés entre 2012 et 2015 auprès de personnels politiques liés à la réforme, au ministère du Travail notamment, mais dans tout un tas d'autres agences. Et d'entretiens que j'ai menés aussi avec des bureaucrates de niveau plus intermédiaire, plus dans la mise en place de ces politiques publiques, donc les street level bureaucrates, dans les agences de l'emploi notamment, et dans les bureaux de l'immigration qui servent à enregistrer les permis de résidence des étrangers. Donc l'équation qui était présente dans cette rationalité d'action publique, c'était... une équation bien connue, alors elle n'est pas du tout présentée de manière sexy ici, mais c'est crise économique plus youth bulge, c'est-à-dire surreprésentation de la jeunesse dans la démographie locale, qui induit une forme de crise générationnelle, plus chômage ou sous-emploi, et les deux en général, plus augmentation du niveau d'éducation moyen ou médian des populations concernées, plus frustration politique, c'est-à-dire pas d'accès à la représentation, etc., donc manque de démocratie si on veut parler comme un Américain, et plus délégitimation des régimes politiques, donc ça, il y a plusieurs cas dans lesquels ça a été documenté, l'Égypte, etc., bon, l'Arabie Saoudite, ça marche aussi, plus mobilisation collective, donc petite dimension d'agency, donc Bouazizi en Tunisie, ou des groupes, égale révolution. Donc on a notre équation causale là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que vient faire l'immigration là-dedans ? Pourquoi les États saoudiens ont lancé, s'il s'agit de contrer une éventuelle révolution, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'immigration ? Est-ce que c'est juste pour créer un effet de bouc émissaire, c'est-à-dire de trouver des victimes expiatoires de politiques de fermeté qui réaffirment en fait l'autorité de l'État, sa pertinence, son efficacité dans le champ social et économique, en plus de la répression politique ? Est-ce que c'est pour remobiliser, comme c'est beaucoup le cas dans le cadre des discours populistes en Europe, par exemple, remobiliser les populations sur des argumentaires d'identité nationale, d'identification collective, donc de faire en fait de la contre-mobilisation avec un ennemi intérieur qui sert d'autres radicales, mais qui permet de fidéliser, de reconsolider le corps social qui est en délitement à cause du chômage, de la crise, etc. Donc, en gros, la stratégie du bouc émissaire, ça c'est une option d'hypothèse, enfin une hypothèse de travail. Ou est-ce que c'est pour un projet de plus long terme, c'est-à-dire de transformer les structures du marché du travail, de transformer les structures de l'économie saoudienne et de progressivement éradiquer cette dépendance structurelle à la migration qui est perçue comme une forme d'affaiblissement du modèle économique saoudien et aussi de son modèle sociétal et politique. De mon point de vue, il y a un peu les deux. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'État saoudien, il était évident qu'il fallait qu'il y ait une dimension immigration, plutôt arrivée des immigrés dans la politique contre-révolutionnaire mise en place. Ce qui n'est pas du tout évident si vous regardez l'équation initiale, parce que la question de l'immigration, elle n'a pas du tout été traitée comme telle, et je reviendrai là-dessus dans l'analyse des autres révolutions arabes. Du point de vue de l'immigration, hein, je ne parle pas des flux... Bien sûr, la migration, elle a été présente comme conséquence, etc., mais l'immigration... donc là, c'est quand même intéressant. Bon, ce qu'on voit, je rappelle les données, mais bon, c'est pas très intéressant parce que vous les connaissez, ces données. La proportion des nationaux et des étrangers en Arabie Saoudite, selon les données publiées par la Banque centrale, c'est une augmentation en termes de taux qui est assez constante. Hein, il n'y a pas vraiment de fléchissement. Il y a un petit plateau dans les années 90, mais qui est lié la crise de 91 sur laquelle je reviendrai, mais donc c'est une forme d'illusion statistique. En fait, il y a une croissance progressive, croissance de la population étrangère, croissance de la population saoudienne. La population étrangère croît un peu moins vite. Il y a un énorme accroissement naturel en Arabie Saoudite lié aux politiques natalistes qui ont été menées dans les années 80-90. Donc ils fléchissent aujourd'hui, le taux de natalité, la fertilité baisse. Les deux taux baissent, pardon. Ce ne sont pas la même chose. Mais on voit qu'effectivement, ben voilà, il y a beaucoup d'étrangers, environ un tiers de la population, peut-être un peu sous-évaluée avec de l'immigration clandestine. Et surtout, on pourrait me rétorquer, si on était un esprit chagrin, oui, mais c'est beaucoup moins que les Émirats Arabes Unis ou le Qatar, où il y a 80-90% de la population étrangère. Oui, en taux, mais en stock, c'est beaucoup plus. Parce que c'est 9-10 millions de personnes pour 1 million aux Émirats. Donc on a des effets aussi comme ça. Voilà. Et puis bon, c'est le plus grand pays d'immigration du monde, etc. etc. Bref. Donc c'est ça, on le sait. Ça aussi, on le sait, que une des conséquences de cette immigration de masse... Hein, alors là, il faudrait quand même parler un peu sérieusement à Marine Le Pen pour quand on parle d'immigration de masse, c'est pas la France et c'est pas l'Europe. C'est un marché du travail fortement segmenté avec une surreprésentation des étrangers. Là, vous avez une comparaison de tous les pays du Conseil de coopération du Golfe, mais une surreprésentation des étrangers sur le marché du travail, en particulier dans le secteur privé, qui est vraiment le mode classique de structuration de ces marchés du travail, mais qui est comparable aussi à des choses qu'on voit en Libye, si je ne dis pas trop de bêtises, mais Ali, peut-être tu seras pas d'accord. Donc si on revient sur les intrants de cette analyse stratégie révolutionnaire de long terme, stratégie contre-révolutionnaire de long terme, effectivement, on a en Arabie Saoudite des données qui nous permettent de dire que oui, il y a certains des vecteurs qui sont des conditions, des contextes favorables à l'émergence des mouvements révolutionnaires qui existent. Le chômage. Oui, il y a du chômage en Arabie Saoudite. Et là, j'ai choisi de vous présenter les données saoudiennes qui sont, bien sûr, largement sous-évaluées, mais parce qu'elles représentent, en fait, la vision que l'État saoudien a du problème. Et il a été traité comme tel, comme un problème public, donc mis à l'agenda de l'action publique dans les derniers rapports statistiques et les publications de l'agence monétaire, de la banque centrale saoudienne SAMA, et de tous les organes du gouvernement qui s'intéressent à la démographie et au marché du travail. Donc, chômage saoudien, environ 12%, probablement plus proche de 18%, et on le voit, sur chômage des femmes... là, on voit effectivement que les femmes sont surreprésentées les populations hors du marché du travail, mais surtout chômage des jeunes. Donc là, on a une partie de la recette révolutionnaire qui a commencé à être concoctée. Et ça, c'est vraiment un point de focalisation de l'attention de l'État saoudien dès 2011-2012. Quand on regarde la distribution des Saoudiens sans emploi par statut, on voit qu'une grande partie d'entre eux aussi sont en fait qualifiés. Hein. Donc là, un autre ingrédient de la recette révolutionnaire est observable. Donc ils ont un diplôme d'enseignement supérieur de premier degré. Mais certains ont des diplômes, voilà. Et dans tous les cas, ils sont dans leur immense majorité, ils ont au moins un équivalent d'un diplôme secondaire, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans en Arabie Saoudite, donc il y a une explosion en fait de l'accès à l'éducation. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui m'a semblé intéressant pour regarder ce qui se passait en termes d'action publique en 2011, c'était de faire le rapprochement avec 91. Pourquoi ? Parce qu'en 91, on a une autre crise régionale qui est l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et qui va générer tout un tas de perturbations politiques dans le Golfe et notamment des perturbations politiques extrêmement violentes en Arabie Saoudite, puisque la localisation des troupes américaines qui vont opérer au Koweït sur le territoire saoudien, donc il y a en gros des troupes américaines qui vont arriver en Arabie Saoudite pour chasser Saddam Hussein de Koweït, qui vont s'installer dans le territoire saoudien, est perçue comme une forme de d'intrusion américaine, du grand Satan qui vient sur le territoire sacré de l'islam. Donc la frange, on va dire, religieuse de l'opposition à l'État saoudien, qui était déjà très vent debout contre l'alliance saoudo-américaine, qui est une alliance structurelle, hein, économique et politique et géopolitique dans la région, complètement... et sans flamme, j'allais utiliser une expression bref. Et donc génère des manifestations une inflammation, on va dire, de l'opposition politique. Et à l'époque, la réponse de l'État saoudien est relativement similaire à ce qu'on observe en 2011, une répression extrêmement puissante et brutale de ses opposants, et en même temps un certain nombre de mesures structurelles qui visent à apaiser la population, dont les mesures de saoudisation de l'emploi, c'est-à-dire de promotion de l'accès des Saoudiens sous forme de préférence nationale à l'emploi, mais qui ne fonctionne, pour le dire vite, quasi exclusivement dans l'emploi public, hein, la saoudisation ne fonctionne pas sur le secteur privé, un discours qui déjà relie migration et sécurité, donc des politiques anti-migrants, et notamment qui s'abattent sur la communauté yéménite qui est expulsée de l'Arabie Saoudite. Environ 1 million de yéménites sont expulsés, avec l'idée que les exemptions qu'ils avaient pour l'obtention des permis de résidence sont levées par décret royal, et donc ils se retrouvent en situation régulière, donc expulsables, et donc ils sont expulsés entre 91 et 92, et il y a environ 800 000 personnes qui rentrent au Yémen, donc c'est une catastrophe pour le Yémen, et c'est un coup géopolitique très fort mené par l'État saoudien pour punir Ali Abdallah Saleh, le président du Yémen, de ne pas avoir condamné Saddam Hussein pour son invasion du Koweït. Donc voilà, il y a un usage là de l'expulsion des Yéménites avec une fonction géopolitique, intimidation d'Ali Abdallah Saleh, et aussi intérieure en disant nous expulsons tous ces étrangers, nous nous recentrons sur l'intérêt national des Saoudiens. Donc c'est à peu près ce qu'on obtient, le même type de schéma qu'on a aujourd'hui avec la relance des politiques de saoudisation. Du marché du travail, donc de promotion de l'emploi des nationaux, préférence nationale, mais qui touche là beaucoup plus profondément le secteur privé, le secteur public ayant été quasiment totalement nationalisé, à travers un programme politique, enfin un programme de politique publique qui s'appelle MITA4, donc ça veut dire en gros les catégories, quoi, les groupes, enfin les... Bref, et la mise en place d'un système d'assurance chômage qui s'appelle Hafez en 2011. À cela, ces mesures que je vais détailler sont ajoutées des mesures d'expulsion contre les Yéménites, encore et toujours des boucs émissaires assez efficaces, mais aussi contre les migrants africains, éthiopiens, érythréens et somaliens notamment, qui sont expulsés en masse à travers un processus qui a été appelé la Correction Campaign, en anglais dans le texte, qui a visé à l'expulsion d'environ, sur l'ensemble de la période jusqu'en 2015-16, 2 millions de personnes, entre 2011 et 2015, et avec, dans les deux premières années, 1 million de personnes expulsées. Il s'agit bien sûr pas de dire que la population des immigrants en Arabie Saoudite a baissé de 2 millions, puisque ces expulsions sont souvent suivies de réémigration ou de remplacement ou les mêmes personnes. Mais là, on a un mouvement très, très brutal. Pour être un tout petit peu plus détaillé, mais j'ai été très longue, donc je vais peut-être pas non plus m'attarder, c'est la dimension technique de ces réformes, elle est assez intéressante. La création de l'assurance chômage, d'une forme de sécurité sociale liée au travail, c'est un peu, dans le discours des acteurs, le passage d'une approche clientéliste et patrimoniale de l'État rentier à un welfare state, quoi, un État providence un peu plus classique et universel, donc où il n'y a plus de dépendance au réseau horizon clientéliste et patrimoniaux, ou à l'État, plus de dépendance directe à l'État. Mais une sorte de structuration de l'État-providence. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 2014, trois ans après le lancement du programme, il y a 2 millions de personnes dans le programme, donc 2 millions de chômeurs inscrits, avec des indemnités qui sont environ à 2000 rials par mois, et avec tout un tas de politiques que je vous épargne sur la durée, qui change. Et donc, dans cette population qui est incluse dans ce programme de chômage, qui a été quand même très rapidement peuplée, on a une forte critique, en fait, du point de vue des officiels sur les faux chômeurs, puisqu'en fait, il y a très peu de contrôle sur qui s'enregistre, et surtout une surreprésentation des femmes de tous âges, y compris des femmes qui techniquement pourraient être considérées, genre les femmes très âgées qui pourraient être techniquement considérées comme hors du marché du travail. Mais ce système de RAFES a été considéré comme une forme de revenu complémentaire, donc une autre forme de rente, notamment accessible aux femmes au foyer qui néanmoins se déclarent demandeuses d'emploi. Donc bien sûr, il y a eu plein de dispositifs pour essayer de faire en sorte que le système soit plus efficace, mais grosso modo, c'est ça qui s'est passé. La proposition d'instauration d'un salaire minimum dans le secteur privé, qui bien sûr est toujours un objet de contention et de débat très virulent. Donc là, il y a eu beaucoup d'atermoiements et finalement pas de mise en place coercitive. Mais la politique la plus intéressante, c'est la politique dite de Mitakat, qui est proposée à partir de 2011 et graduellement mise en place dans le secteur privé, qui est une nouvelle offensive des politiques de saoudisation fonctionnant à partir plutôt d'incitations financières pour le secteur privé et les entreprises plutôt que de mesures coercitives comme ça avait été le cas en 91. Et ça, c'est il y a eu une évaluation qui a été faite par Stéphane Hertog en 2014, un peu évaluation de politique publique. Donc le fonctionnement, c'est on essaye de contrôler l'importation de main-d'œuvre étrangère dans le secteur privé, on promeut l'emploi des Saoudiens dans les entreprises en proposant un modèle un peu de capitalisme d'État, donc c'est assez intéressant. Donc on impose des quotas à l'intérieur des entreprises, des catégories d'entreprises qui sont repérées par un code couleur dans le système Nitakat, donc qui ressemble à ça. Donc on a du vert, du jaune, du premium ou du platinum et du rouge. Donc le jaune et le rouge sont des catégories où les entreprises sont limitées dans leur capacité d'emploi des étrangers et se voient appliquer des non-renouvellements des permis de travail ou des visas avec éventuellement des amendes, hein, de jusqu'à 2400 rials par expatrié par an, donc en fait c'est très très peu, mais nonobstant c'est désincitatif parce que ces entreprises ne peuvent pas employer, ne peuvent pas recruter des étrangers. Et les catégories vert et premium, c'est une autorisation qui ont donc des taux d'étrangers plus faibles dans leur main d'œuvre, sont autorisés à importer des travailleurs étrangers et obtiennent des visas. Donc vous voyez qu'il y a une tentative de régulation par à la fois l'amende et la régulation administrative. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système des amendes n'a pas vraiment été mis en place. Et qu'en revanche, ce qui a été mis en place, qui est beaucoup plus intéressant, c'est dans une seconde vague à partir de 2013, c'est le remboursement du delta, c'est-à-dire de la différence entre le coût d'un travailleur étranger et le coût d'un Saoudien sur le même poste par l'État. C'est-à-dire l'État va payer aux employeurs la différence entre ce que coûterait un travailleur étranger, qui est moins cher qu'un travailleur saoudien, et un saoudien. Et ça, c'est une politique de compensation salariale mise en place, qui va coûter très très cher à l'État, qui au départ est mise en place pour un maximum de 1 an et jusqu'à 2000 rials par mois, et qui en fait va chaque année être étendue de jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, parce que en fait, on se rend compte que quand on a commencé à contribuer en fait au salariat, même dans le secteur privé, des Saoudiens, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, pas. C'est très difficile de phase out, comme disaient mes interlocuteurs. Et alors, idéalement, ils avaient tous l'idée que c'était en gros un pied à l'étrier pour les travailleurs saoudiens et qu'ensuite ils devenaient compétitifs et non pas qu'ils devenaient, qu'ils baissaient leurs prétentions salariales, mais que leur productivité augmentait et donc l'entreprise était prête à payer leur salaire. Je ne sais pas, vous avez vu qu'une entreprise qui peut payer moins quelqu'un choisit de payer plus, mais en tout cas, c'était cette idée-là. Il y avait aussi cette idée qu'on allait soutenir les jumelages de travailleurs, un étranger ou un expat et un national, avec l'idée que le national allait « learn on the job », c'est-à-dire qu'au départ, il entre, il n'est pas qualifié, il n'est pas performant, mais il y a un transfert de compétences entre l'expatrié et le national, et à la fin, on peut jeter l'expatrié et garder le national sur le même type de poste. Donc ça veut dire qu'on accepte de payer quasiment 2 salariés pour le même travail avec ce système de compagnonnage ou d'apprentissage, mais là encore... Voilà, la question de la faisabilité ou de l'efficacité, elle est très... Il y a une batterie de mesures dont j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec des représentants du service public. On a organisé des ateliers à Jeddah et à Riyad. Et c'est, voilà, il y a des rationalités d'action publique qui sont parfois sur le papier très séduisantes, qui sont très largement influencées par la présence de consultants du Boston Consulting Group et d'autres grands groupes internationaux dans les administrations, qui ont été embedded experts, mais qui n'a pas été d'une efficacité délirante. En ce qui concerne l'immigration, il y a deux aspects. Un aspect de lutte contre l'immigration illégale ou irrégulière, avec cette correction campaign qui est mise en place à partir de 2012 et qui comprend une période d'amnistie ou plutôt une période de grâce pour les étrangers en situation irrégulière ou pas complètement régulière, qui au départ était juste de quelques mois, début 2013 jusqu'au 3 juillet, qui est étendue à la suite du lobbying d'un certain nombre d'ambassades, notamment l'ambassade indienne, jusqu'en novembre. Donc c'est une période pendant laquelle les étrangers en situation pas complètement régulière ou irrégulière ont l'occasion de rectifier leur statut, à la fois sur les permis de résidence et les cartes de travail, ou leur enregistrement auprès d'un CAFIL. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, on peut observer qu'il y a des ambassades qui sont extrêmement actives, qui proposent une aide juridique à leurs ressortissants, qui vont même jusqu'à financer le retour des étrangers non régularisables pour éviter de se mettre en délicatesse avec le ministère de l'Intérieur saoudien et pour éviter des expulsions. Pourquoi ? Parce que les expulsions sont ensuite assorties d'une non-possibilité de réémigration vers l'Arabie saoudite. Donc l'ambassade indienne, par exemple, elle a déployer un dispositif d'aide juridique, d'aide juridictionnelle même, et de soutien ou de rapatriement de ces étrangers non régularisables, qui est très très impressionnant. D'autres ambassades, qui ont pourtant une grosse population d'étrangers en situation pas complètement régulière, par exemple éthiopiennes, érythréennes ou somaliennes, n'ont bien sûr pas eu les moyens de faire ce type de dispositif, de mettre en place ce type de dispositif, et donc ont été particulièrement touchés par les rafles dans les quartiers populaires qui ont été menées par l'armée pour rassembler les étrangers en situation irrégulière, les incarcérer et les déporter très rapidement. Donc on ne sait pas exactement, en 2013, fin 2013, il y aurait eu 1 million de personnes qui auraient été expulsées. Le ministère de l'Intérieur a cessé de publier les chiffres sur les expulsions en 2014, donc on ne peut pas avoir d'idées précises. Donc les estimations, c'est qu'il y aurait environ 2 millions de personnes qui auraient été expulsées. Il y a eu 4 millions, ça on a les informations, environ 4 millions de régularisations, ça veut dire des personnes qui ont changé de statut ou qui ont vu leur statut régularisé au cours de cette campagne de correction. Ça c'est assez intéressant. La deuxième dimension de ce dispositif sur la réforme de l'immigration, c'est le contrôle et la réforme du système de la kafala, c'est-à-dire de l'intermédiation sociale dans le contrôle de la résidence des étrangers sur le territoire. Le fait que l'État a délégué une partie de son contrôle de la migration à des intermédiaires sociaux, que ce soit les employeurs qui sont les garants du travailleur étranger, ou des agences de recrutement qui peuvent être aussi CAFIL, ou des particuliers qui peuvent être aussi des garants, notamment dans le cadre de l'emploi domestique. Donc là, il y a une tentative de contrôler, qui est une tentative de recontrôler, de réétatiser ce système d'intermédiation pour mieux que l'État le contrôle mieux, qui est d'ailleurs observé dans les autres pays du Golfe et qui a échoué dans tous les autres pays du Golfe, comme elle échoue plus ou moins en Arabie Saoudite, sauf à Bahreïn. Et notamment, il s'agit de bannir ce qui s'appelle les libres visas, c'est-à-dire le fait que des étrangers entrent sur le territoire grâce au système de la kafala, mais sans contrat de travail réel derrière. C'est-à-dire qu'ensuite, ils deviennent des travailleurs libres sur un marché du travail libre informel, alors que normalement, la kafala et la régulation de l'immigration doivent assurer qu'aucun étranger ne peut être présent sur le territoire sans un contrat de travail associé à un travail, à un emploi réel. Et ce qui est intéressant, c'est que la kafala, qui est souvent présentée comme un système d'assujettissement, d'aliénation, d'exploitation dans une veine néo-marxiste, ce qu'il est totalement, hein, depuis les années 70, on a ce type d'analyse, est aussi un système d'évitement du contrôle du marché du travail par l'intermédiation d'acteurs sociaux, qui deviennent de fait des vendeurs de chair humaine, enfin des vendeurs de travailleurs, mais puisqu'ils vont vendre ensuite la possibilité d'employer tel ou tel truc contre une fees, enfin, contre une rémunération, mais enfin, nonobstant, ça crée un marché du travail libre, non directement contrôlé par le droit du travail saoudien. L'idée, c'est de créer un marché du travail plus difficile d'accès pour les étrangers, mais plus flexible, puisque dans le contexte de NITA 4, les étrangers qui sont travailleurs d'une entreprise qui est dans la catégorie rouge ou jaune, c'est-à-dire une catégorie qui n'a pas le droit de faire venir de nouveaux travailleurs étrangers, peuvent quitter leur employeur pour aller dans une entreprise premium ou verte, s'ils ont un appel, hein, s'ils ont une proposition d'emploi, sans l'autorisation de leur employeur. Alors que normalement, un employé ne peut pas quitter son entreprise sans un quitus de son employeur et de son CAFIL. Donc l'idée, c'est quand même assez révolutionnaire, c'est de flexibiliser le marché du travail et de donner cette forme d'autonomie aux travailleurs pour ceux qui sont dans des entreprises qui emploient trop d'étrangers. Alors ça, ça a été très 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 contesté par les chambres de commerce, etc., parce que c'est une perte sèche sur le contrôle de sa main-d'œuvre et la capacité d'exploitation de la main-d'œuvre, mais c'est quelque chose auquel tenaient beaucoup les agents publics. Donc ça, c'est un des documents qui présente la correction campaign. Donc le résultat des réformes, c'est cette question de la kafala et du recrutement vis-à-vis de l'étranger, c'est... alors, on n'a pas vraiment eu un retour de l'État sur le contrôle du recrutement, mais l'État a tenté de restructurer le secteur du recrutement transnational, donc des travailleurs expatriés, en minimisant le rôle des CAFIL et des employeurs et en créant un système de licence pour des grandes compagnies de recrutement, type des super manpower, quoi. Donc un secteur privé qui est licencié par l'État pour assurer l'importation de travailleurs, même sans contrat. Donc l'idée de travail. Donc l'idée de l'État, ça a été de remplacer le système des free visas, qui était un système informel de contournement du droit du travail, par un système formel d'importation de travailleurs libres, entre guillemets, c'est-à-dire pas liés par un contrat de travail à une entreprise, mais liés à des compagnies de recrutement qui, elles, vont se charger de placer ces travailleurs sur le marché du travail, notamment pour les travailleurs non qualifiés. Et ce test, il a commencé à être mené en 2014, avec les premières licences qui ont été distribuées à 6 compagnies. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Et voilà, c'est une façon de tracter, enfin de négocier avec un secteur privé, le secteur du recrutement, l'éradication d'intermédiation un peu plus difficilement contrôlable de la kafala et transformation un peu structurelle du marché du travail. Donc c'est un test c'est une partie du travail que j'ai fait ces dernières années, de mener une enquête ethnographique au sein d'une de ces compagnies de recrutement la plus importante et la première qui a reçu la licence, qui s'appelle Smasco. Donc on peut se poser la question en termes d'économie politique, est-ce que c'est une pure libéralisation, est-ce que c'est une façon de bring the state back in, mais avec un partenariat public-privé, est-ce qu'on peut observer la résilience des liens patrimoniaux qu'il y avait entre le public et le privé dans cette version-là, ou est-ce que c'est du management néolibéral, bref, il y a plein de questions qui se posent, mais c'est une question pour un truc, et c'est vraiment une restauration du secteur du recrutement et des pratiques de recrutement. Un des autres résultats, c'est que le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur, grâce à ces campagnes très brutales, ont de meilleures données, un meilleur contrôle sur l'immigration. Ça, c'est l'objectif. Mais ce qu'il faut voir, alors là, j'ai un typo dans ma diapositive, une faute typographique, c'est qu'il faut aussi prendre en compte les changements d'équilibre de pouvoir entre les différents ministères. Et ça, c'est des choses que j'ai étudiées. Enfin, un peu dans cet article, j'avais déjà regardé dans ma thèse de doctorat, sur le fait que les politiques migratoires dépendent aussi, bien sûr, des rapports de force, souvent entre un ministère de l'Intérieur et un ministère du Travail, ou un ministère de l'Immigration quand il y en a un, ou d'autres institutions. Et là, on voit qu'il y a comme ça des changements de personnel politique, de rapports de force, notamment avec le nouveau roi en février 2015, le fait qu'il prend comme héritier, entre guillemets, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était lui-même le fils du vieux ministre de l'Intérieur, le prince Naef. On voit que le balancier, qui avait été longtemps du côté du ministère du Travail, qui avait eu plus de pouvoir dans les années 2000-2010, autour de la personne du ministre qui s'appelle Al-Faki, qui était quelqu'un d'assez charismatique et très soutenu par le roi Abdallah, il y a une perte d'énergie à partir de 2015 et un mouvement de balancier vers le ministère de l'Intérieur. L'idée, c'était de priver aussi de pouvoir les koufalas, c'est-à-dire ces intermédiaires sociaux, peut-être de donner plus d'autonomie aux migrants pour avoir des marchés du travail plus libéraux, entre guillemets. Donc ça, on va voir si ça... on peut l'observer sur le long terme, mais moi, j'ai pas de retour là-dessus. Et aussi de promouvoir un changement culturel qui avait déjà été initié sous le roi précédent, c'est-à-dire de promouvoir l'emploi des femmes. Ça, c'est quelque chose sur lesquels Amélie Le Renard a un peu travaillé, mais qu'on voit beaucoup maintenant, l'accès des femmes au monde du travail et le changement des régulations du monde du travail. Les résultats, ce sont aussi, c'est assurer un turnover des migrants, c'est-à-dire assurer que les migrants ne s'installent pas, mais qu'on puisse avoir une circulation et beaucoup d'expulsions et beaucoup d'entrées. C'est-à-dire, en fait, un sol migratoire toujours un peu positif, mais avec un renouvellement de la population. L'objectif, ça a été aussi de... Enfin, on voit que le résultat, c'est aussi de créer un choc, une forme de traumatisme dans les catégories de migrants qui ont été les plus exposés aux expulsions, notamment les migrants africains. Ne serait-ce que sur la période, par exemple, janvier-novembre 2013, on observait 1 million de départs volontaires. C'est des gens qui repartent éviter de se faire arrêter, etc. C'est énorme. Donc il y a comme ça des grands mouvements dans la population migrante. 600 000 expulsions sur les mêmes mois. Et en fait, chaque année, environ 600 000 expulsions. Donc en fait, on est probablement au-delà de 2 millions, mais c'est très difficile de mesurer. Il y a plein de données contradictoires. Un autre élément très important, c'est un débat à partir de 2015 sur la limitation de la durée de résidence autorisée. Alors ça, c'est quelque chose qui est l'objet d'un point de contention entre le secteur privé, représenté notamment par les chambres de commerce, et le ministère de l'Intérieur, qui veut absolument limiter à 8 ans la durée de résidence autorisée sur le territoire, comme l'ont fait le Qatar et les Émirats. Et en fait, le secteur privé s'oppose totalement à cette mesure, parce que leur argument, c'est quand on a un bon salarié qui travaille bien, on n'a pas du tout envie d'avoir à le renvoyer au bout de 8 ans. C'est complètement absurde et contre-productif. Donc ça a fait que, la limitation a été mise à l'agenda, puis retirée, puis remise, validée, mais finalement pas appliquée. Enfin bon, c'est des atermoiements assez classiques en Arabie Saoudite. Mais c'est une question qui fait beaucoup plus débat qu'aux Émirats, par exemple. Mais l'impact qui est sûr, c'est que ça a vraiment fragilisé les communautés, notamment les migrants les plus qualifiés, les migrants africains, ça c'est évident. Voilà. Moi, j'ai juste pu aller dans un quartier particulièrement... Enfin, un quartier du, populaire qui s'appelle Manfora, après une rafle. C'est vrai que c'était un peu... voilà, c'était un peu le ghetto de Varsovie après l'avoir vidé, quoi. C'était assez... visuellement, même, c'était assez terrible, quoi. On voyait les jouets des enfants dans la rue. Enfin, c'était vraiment le ghetto de Varsovie. C'était vraiment l'image que j'ai vue. Enfin, je sais pas, chacun a sa petite métaphore des expulsions et des rafles dans la tête. L'hypothèse qui semble confirmée, c'est que les expulsions sont un mode de communication politique, donc fragiliser les étrangers peu qualifiés, certaines nationalités dans un marché du travail qui est fortement racialisé, où chaque secteur d'emploi correspond à des filières prioritaires d'immigration de travail nationale, on va dire, vers des pays d'origine, et empêcher l'immigration ou la faire baisser à court terme. Je ne pense pas que ça a été le but de ces politiques, mais assurer un turnover sûrement. Donc il n'y a pas de baisse des entrées ou du solde migratoire, notamment parce que les besoins du marché du travail sont négociés avec les chambres de commerce. Donc ça, c'est lié à un travail que je fais en ce moment, donc un chapitre de livre qui s'appelle Illiberal Governance, Migration Management in the GCC, pour un livre qu'on édite avec Catherine, qui s'appelle Migration Governance Critical Essays, qui devait paraître cette année, mais nous avons pris beaucoup de retard. Donc il paraît très probablement l'an prochain. Et un texte sur la kafala et l'intermédiation. Voilà, ça c'est le terrain que j'ai commencé en 2015 avec Smesco. Évidemment, là, je n'ai pas du tout le temps de passer à ce deuxième point sur la vraie révolution saoudienne. C'est un peu dommage. Mais je peux conclure, je peux conclure en une ou deux minutes, enfin jusqu'à la nuit, quoi. Ça va. Une des hypothèses que j'avance à la fin du premier papier, c'est qu'en fait, la vraie révolution saoudienne, ou si j'étais l'État saoudien, la vraie révolution que je devrais craindre, c'est plutôt celle qui est induite par l'immigration et l'installation des immigrés et ses conséquences en termes de changement social et de composition de la population et de changement des dynamiques culturelles et politiques dans le pays. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette dimension elle n'est pas du tout prise en compte dans l'analyse des révolutions en général. La mobilité, elle est juste prise en compte comme une conséquence, dans le cas de la Syrie ou de la Libye ou de la Tunisie, une conséquence des révolutions, pas du tout comme en tant que la migration, c'est-à-dire l'immigration ou l'émigration comme vecteur de changement social. Le seul aspect qui a été un peu utilisé dans cette dimension structurelle de l'analyse des mouvements révolutionnaires, c'est la participation des émigrés, l'activisme transnational, quoi, la participation des émigrés aux révolutions. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'Arabie Saoudite ou des pays du Golfe, on ne se pose pas du tout la question de l'immigration comme vecteur de changement social. Et pourquoi ? Parce qu'on a une vision très figée des migrations dans les pays du Golfe, qui, les pays du Golfe, import labor, not people, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation, il n'y a que des travailleurs qui viennent, qui travaillent et qui repartent. Ces travailleurs n'ont pas de famille. Mais comme nous l'a dit Philippe Martin il y a longtemps sur les braceros aux États-Unis, ou comme le disait Philippe Cassel dans les années 80 sur l'Allemagne, évidemment qu'il n'y a rien de plus permanent que des temporary foreign workers. Et qu'évidemment qu'il y a de l'installation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pense souvent que les pays du Golfe, comme ils sont autoritaires et riches, ils sont efficaces dans l'organisation de la clôture du champ social et de la ségrégation des étrangers. Ils font de la planification urbaine. Il y a beaucoup de typos dans ce slide, j'en suis désolée. Ils font de la planification urbaine pour empêcher les contacts entre les étrangers et les nationaux. Ils font des camps de travail, de la ségrégation. Il y a aussi de l'autoségrégation. Les étrangers n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, ou plutôt ils ont un accès payant, ce qui n'est pas la même chose. Il y a une institutionnalisation du marché du travail racialisé, etc., à travers des politiques d'importation de main-d'œuvre, ce que j'ai déjà beaucoup documenté. Il n'y a pas de droit pour les migrations, pas de droit pour les migrants, ni droit socio-économique, politique, pas de liberté individuelle. Et malgré quelques réformes du Code du travail, les rares droits qui existent ne sont pas appliqués. Donc ma question, c'est comment on conceptualise le changement social lié à l'immigration dans un contexte autoritaire et libéral, et c'est l'objet d'un papier que je suis en train d'essayer d'écrire. Notamment quand l'immigration et la question de l'immigration, c'est-à-dire l'installation et la création de communautés immigrées, est niée ou négligée et par les acteurs publics et par le champ académique, comme le montre cette citation de Philippe Farag sur laquelle je ne m'attarde pas. L'idée, c'est de passer en fait de l'analyse du travailleur sous contrat à l'analyse de l'immigré, donc un retour à Sayad, un retour à la sociologie de l'immigration, à ce que nous dit Douglas Massey sur la sojourner phase et la settler phase, en regardant des variables quantitatives et qualitatives. Donc les variables quantitatives que je choisis sont des variables démographiques, naissance, décès, âge des étrangers en résidence, donc pyramide des âges, pour essayer de déterminer si on a une seconde génération d'étrangers dans le pays, et des variables qualitatives qui sont les pratiques culturelles, les interactions sociales, les pratiques de consommation, les cultures urbaines, sur lesquelles j'ai déjà écrit, la pratique du quotidien, en fait, comme dirait De Certeau, la constitution de incipient diasporas, comme disait Myron Wiener, dès les années 80. Donc, en termes de quantitatif, donc je vous donne juste les données dures, qui sont toujours assez séduisantes, on voit que, oui, il y a des deuxièmes générations ou des très, très jeunes travailleurs migrants, on le voit sur ces pyramides déjà, des âges. Donc, en Arabie Saoudite, c'est à peu près 20% de la population des étrangers qui a moins de 14 ans. Donc, de fait, on a des étrangers qui ne sont pas des travailleurs, ou alors... on a des étrangers qui ne sont pas des travailleurs, donc des bébés travailleurs. Donc vous voyez, c'est, en Arabie Saoudite, c'est particulièrement fort. Donc ça, c'est la pyramide des âges des étrangers. Ça, c'est Bahreïn, donc pareil, on a des étrangers bébés. Idem en Oman, avec une sous-représentation qui est pas mal une illusion statistique si on regarde la façon dont sont construites les statistiques omanaises. Et aussi parce qu'une partie des étrangers, entre guillemets, sont en fait intégrés bizarrement dans des statistiques nationales. Koweït, pareil, on a des bébés étrangers. Qatar, on n'a pas d'informations sur les moins de 15 ans, donc ça permet de dire qu'il n'y a pas d'étrangers enfants résidents. Mais l'État de Qatar, il a décidé de ne pas donner d'informations statistiques sur les étrangers qui ne sont pas sur le marché du travail. Mais cette occultation elle-même est pour moi un truc intéressant à regarder. Émirats Arabes Unis, pareil, on a des bébés étrangers. Et donc, ça fait que je suis en train d'écrire un papier qui s'appelle Resilient Residence sur ce phénomène qui est probablement le vrai phénomène révolutionnaire en cours dans la région. Et je m'arrête.